Donc aujourd'hui, si vous voulez vous tourner au livre de Malachie, c'est le dernier livre avant le Nouveau Testament. Donc c'est le dernier des petits prophètes que nous allons commencer ce matin et sans doute terminer assez rapidement. Donc nous aurons enfin fini notre étude à travers les petits prophètes qui durent depuis quelque temps maintenant. Pour commencer ce livre, j'allais un petit peu introduire le contexte et vous faire quelques petits rappels au niveau de la chronologie. Si Nadine peut mettre des petites fiches que j'avais fait précédemment, qu'on avait déjà regardées. Donc l'histoire d'Israël, on a le début de l'histoire qui nous est présentée par la Bible avec la période d'Adam à Moïse et ensuite l'entrée en terre promise avec de Josué à Samuel, avec la conquête et les juges. Puis vers 1000 avant Jésus-Christ, on passe à la période suivante avec le royaume, avec un roi, si tu peux passer à la suivante. Mais donc on a les rois Saül, David et Salomon. Et ensuite on a la division du royaume avec Israël et Juda, environ 930 avant Jésus-Christ, et qui continue jusqu'à 586 avant Jésus-Christ. Et puis, on arrive au contexte plus proche de ce qui nous intéresse ce matin avec Malachie, avec donc l'exil à Babylone, dont nous avons beaucoup parlé avec les prophètes. Et le peuple revient après l'exil à Babylone en terre promise. Et donc, on voit les livres qui traitent de cette période-là de l'histoire, avec Esdras, Néhémie et Esther notamment, qui sont plus des livres qui racontent un petit peu l'histoire et ce qui se passe. Et puis les prophètes Agée, Zacharie et donc Malachie que nous regardons ce matin. Malachie est le dernier, on va dire, est un bon livre quand on le lit dans son ensemble. C'est un petit livre qui fait que 3 chapitres, qui se lit assez rapidement. Qui précède un temps de silence de presque 400 ans avant la venue de Jésus et la suite de ce que nous voyons dans la Bible avec les évangiles et le Nouveau Testament. Donc on l'appelle un des prophètes post-exiliques, donc c'est après l'exil. On pense qu'il a écrit à peu près 100 ans après le retour du peuple en Israël. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont de retour dans le pays. Le temple, de ce qu'on voit dans le livre, les choses qu'on comprend, les choses qu'on peut supposer de ce qu'il dit et de la manière dont il parle, c'est que le temple est reconstruit, que le peuple a recommencé à adorer Dieu dans le temple. C'est implicite dans plusieurs passages. Et on pense qu'il est contemporain de Néhémie. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller, si vous avez le temps, regarder dans, par exemple, Néhémie 13 et comparer un petit peu les thèmes et les choses que Dieu veut dire au peuple qui correspondent un petit peu. Et on va regarder certaines de ces choses que Dieu veut dire au peuple à ce moment-là de leur histoire. Et donc, en termes de date, c'est 400 ans, 450 ans avant Jésus-Christ qu'a eu lieu ou que ces choses ont été écrites par Malachie, qui est un prophète dont on ne sait rien. On ne sait pas qui c'est. Il y a des discussions, mais on n'a pas d'autres éléments, pas d'autres références. Malachie va parler un petit peu comme les autres prophètes, va adresser certains problèmes, certaines choses que le peuple faisait mal. Et on se remet encore une fois dans ce contexte du retour après l'exil où le peuple, ils avaient de grands espoirs, ils se sentaient choisis par Dieu et puis avec le péché qui a continué, Dieu les a punis et avec l'exil, ils sont partis et reviennent peu nombreux, ils sont découragés, c'est difficile, ils n'ont pas ils ont plus la grandeur de leur période passée, ils ont des difficultés, ils sont peu nombreux, ils sont sous la domination d'autres empires et ils vivaient toujours avec cet espoir et ils connaissaient les promesses de Dieu, les prophéties et ils se disaient quand est-ce que ça arrive, Quand est-ce que le Messie va venir installer son royaume? Nous, on va dominer sur toutes les autres nations. On va être de retour au sommet, entre guillemets. Et ça vient pas. Et on voit aussi que malgré l'exil, le problème du peuple d'Israël, leur péché, leur corruption, les choses avec lesquelles que Dieu leur reprochait, ben ça continue. Si vous lisez dans Esdras et dans Néhémie, on voit qu'ils sont pas plus avancés. Le fait d'avoir été en exil n'a pas changé les problèmes de fond qui étaient dans leur cœur et dans leur vie. Et donc Malachie ici va leur parler de certaines choses et les appeler à revenir à Dieu, va les appeler à lui obéir. Et le livre est une sorte de collection de, on pourrait dire, de débats ou de disputes. Où Dieu, par la bouche de Malachie, leur dit quelque chose. Il leur dit voilà, vous le faites pas bien. Et le peuple répond en disant mais quoi? Qu'est-ce que j'en... Non. Et Dieu qui ensuite leur explique le pourquoi de ce qu'il vient de dire, de déclarer les concernant. Et donc il y a plusieurs questions comme ça quand on lit le livre. On notera ce qu'on regardera ce matin. Et c'est un livre qui est très riche et qui a plein de choses à nous dire. C'est que 3 chapitres, ça on peut le faire très rapidement en survol. Moi, en préparant l'étude, j'avais de plus en plus de choses que je pouvais mettre et d'idées qui me venaient de choses qui me parlaient moi personnellement et où je me disais on pourrait en parler. Donc je vous encourage encore une fois vous à le lire. On va sans doute passer peut-être 1 ou 2 dimanches dessus. Je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois que nous, en tant qu'Église, on fera l'étude le dimanche matin du livre de Malachie. Ça risque d'être un petit moment. Donc profitez-en, lisez-le par vous-même, notez-le. C'est un livre qui se lit facilement, comme je le disais, et qui a des choses qui sont très très parlantes pour nous à notre époque. Et on va regarder un petit peu pourquoi. Alors je nous propose de regarder le livre, de commencer à lire au chapitre 1. Verset 1. Malachie 1, verset 1. Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, qu'ils construisent, je démolirai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient ? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous souillé ?» C'est en disant « La table de l'Éternel est dérisoire. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites quel ennui, et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel ? Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Maintenant, prêtre, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Me voici, je menace votre descendance et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je l'ai lui ai donné pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous vous êtes écarté de cette voie, vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. Amen. C'est ce que nous allons regarder ce matin. Des mots directs, des mots durs. Pour finir sur l'introduction, suivant les versions que vous avez de la Bible, le livre de Malachie est divisé en 3 chapitres ou en 4 chapitres. Et pour ceux qui le savent, c'est pas forcément une surprise. La Bible, en fait, les écrivains de la Bible, quand ils ont écrit les livres un peu d'une seule traite. Il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de division comme ça sur les rouleaux à l'origine. Et plus tard, donc au XIIe siècle, il y a un Anglais qui s'est dit « Tiens, ce serait bien de diviser quand même en chapitres pour un peu aider... quand on veut faire référence aux choses, quand on veut discuter, quand on veut étudier la Bible, quand on veut pouvoir se référer aux différentes choses dans la Bible, on va le diviser en chapitres. » Et ensuite, plus tard, un Français, Robert Étienne, en 1551, d'après les livres d'histoire, a décidé « on va faire des divisions plus fines avec les versets. » Et donc, ils ont ajouté les divisions en versets. Et... suite à ça, il y a eu de temps en temps quelques différences d'appréciation. Il y a une certaine subjectivité quand on fait ça. On essaie de comprendre le texte et de regarder, là c'est un sujet, là on passe à un nouveau sujet, là, et donc on va diviser comme ça. Donc cette subjectivité introduit des petites différences et entre certaines traductions et traduction de la Bible, il y a des petites nuances, et donc notamment au niveau de Malachie, si vous avez certaines Bibles, notamment je crois que c'est la seconde, qui divise Malachie en 4 chapitres, alors que dans la plupart des versions plus récentes, c'est en 3 chapitres. Une petite précision, il n'y a pas plus de versets, moins de versets, c'est juste qu'ils ont divisé un petit peu différemment. Si vous tombez là-dessus et que vous vous dites qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de problème, c'est une explication assez simple et historique. Alors Malachie, verset 1 du chapitre 1, message, parole de l'Éternel adressé à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Et puis le verset 2, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Et donc ici, on a la première dispute, on va dire, avec Dieu qui dit « Je vous ai aimé » et le peuple qui dit « Non ». Et Dieu qui va leur expliquer qu'il les a choisis et que c'est une preuve de son amour. Et il utilise l'exemple d'Ésaü et de Jacob. Il dit « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ?» déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, qu'ils construisent. Je démolirai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Il leur rappelle leur histoire au peuple d'Israël. Il leur rappelle l'histoire de Jacob et Ésaü. On se trouve dans le début de l'origine du peuple d'Israël, dans le livre de la Genèse. Il y avait Abraham, Isaac et ensuite Jacob. Ce sont les pères de la nation d'Israël. Et Isaac avait deux fils. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il avait Ésaü et Jacob. Et Ésaü était l'aîné à qui devait revenir normalement la bénédiction, qui aurait dû être le principal dans la lignée. Mais suite à une tromperie et une histoire, si ça vous intéresse, vous pouvez lire, c'est dans Genèse 25, 26, 27. Jacob reçoit la bénédiction de la part de son père. Et ce Jacob devient plus tard Israël, vraiment celui qui donne son nom à la nation d'Israël. Et Ésaü, de son côté, va donner un peuple qu'on appelle les Édomites. Ce peuple va avoir une mauvaise relation avec Israël au cours de l'histoire et va être en général un ennemi d'Israël, va être en opposition à Israël au cours de l'histoire dans l'Ancien Testament. Et les Édomites sont détruits en même temps que les Israélites avec les invasions des Babyloniens, des Assyriens, et eux, leur nation n'est pas reconstruite. Eux, il ne reste plus rien. Et les Israélites étaient au courant, savaient ces choses. Et donc Dieu se sert de cette histoire pour leur dire je vous ai aimé, je vous ai choisi, et je vous ai gardé, je vous ai ramené vous, alors que eux je les ai détruits. Alors c'est une petite histoire, mais qui introduit plein de questions sur laquelle on pourrait s'attarder, mais on ne va pas le faire ce matin, sur cette idée de Dieu qui nous choisit, de Dieu qui nous aime en nous choisissant. Et quand on lit cette histoire d'Ésaü, on peut se dire, mais comment, il y a un passage où il est dit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est comment ça se fait que Dieu puisse faire ça? On a l'impression de quelque chose d'un peu capricieux. Il a choisi un autre et les autres, tant pis, c'est eux, ils sont perdus. Mais plusieurs points déjà pour commencer. La notion, c'est de dire quand il utilise cette manière de parler, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü, c'est pas l'idée des sentiments ou de tellement, mais c'est l'idée qu'il y en a un qu'il a vraiment aimé et l'autre qu'il a juste laissé. Et en lisant et en préparant, il y avait quelqu'un qui posait une bonne question par rapport à cette idée de Dieu qui choisit, et on va regarder après que ça s'applique à nous aussi. Mais c'est que nous, quand on lit ça, on se dit comment est-ce qu'il a pu détester quelqu'un ou ne pas choisir quelqu'un, rejeter quelqu'un. On est dans une situation où on réfléchit à ce qu'on appelle l'élection ou parfois la prédestination. C'est des sujets lourds sur lesquels, encore une fois, on ne va pas s'attarder ce matin. Mais la bonne question, en réalité, c'est pas pourquoi est-ce que Dieu rejette certains, mais c'est comment ça se fait que Dieu aime certains, que Dieu accepte certains, que Dieu pardonne à certains. C'est ça le miracle. L'homme, l'humanité dans son entièreté, ce que nous méritons, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et Dieu, de manière incroyable, choisit certaines personnes et les accepte. Et il leur rappelle ça au peuple, il leur dit, moi je vous ai choisi, vous étiez rien, vous ne demandiez rien à personne, c'est moi qui suis venu vous chercher, c'est moi qui ai décidé de vous aimer, de vous donner ce que vous avez eu. Et nous, dans nos vies, parfois on peut se dire, on lit la Bible, on vient à l'église, on entend les gens qui disent « Dieu nous aime ». Vous avez déjà entendu ça ici à l'église, peut-être ? Et parfois, inconsciemment, dans nos vies, il peut se passer des choses, et on se dit, Dieu, d'accord, il m'aime, mais en théorie, mais Dieu, quand est-ce que tu m'as aimé ? C'est une question qu'on peut se poser. Les choses qui nous arrivent dans la vie nous amènent à nous poser cette question. Et c'est souvent des choses qui sont un peu, peut-être, intériorisées, qu'on n'exprime pas forcément de manière aussi claire. Mais d'une certaine manière, on peut douter de l'amour de Dieu pour nous. Et la Bible nous dit, Jean 3,16 nous explique, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est la même idée dans Jean 3,16 que ce qui nous est présenté ici dans Malachie. Dieu dit, « Je vous ai aimé. » On peut dire, Dieu, comment, quoi, tu m'as aimé, qu'est-ce que c'est ça? Tu dis ça, et Dieu a déjà répondu, un petit peu comme il l'a fait ici avec les Israélites dans Romains 5. Les versets 6 à 11, il dit, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste? Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Dieu nous a aimés et il nous aime encore. Il l'a prouvé parce qu'il a donné son Fils pour nous, alors que nous étions dans nos fautes, nous étions perdus, nous ne méritons rien. Nous ne faisons rien, nous n'arrivons pas à mériter l'amour de Dieu. La question, c'est pas pourquoi est-ce que Dieu rejette quelqu'un, mais c'est la question, c'est Dieu, merci pour quelle chose incroyable que tu aies donné ton Fils, que tu m'aies choisi. Et Romains 8,38 nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Souvent, nous remettons en cause l'amour de Dieu de manière inconsciente. Un petit peu, moi j'ai deux petits-enfants, vous le savez, c'est un petit peu comme, est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui sont très fâchés, qui vont dire des choses très très graves, « Papa, je t'aime pas, parce que tu lui as pas donné, tu as pas voulu lui donner le bonbon qu'il voulait sur l'instant, ou parce qu'on savait qu'il allait être malade après, si... » Et Dieu, parfois on se comporte comme ça avec Dieu. Dieu est souverain, nous accorde ou ne nous accorde pas certaines choses dans nos vies, permet que certaines choses nous arrivent, et nous on remet en cause son amour. Dieu nous aime, Dieu nous a aimés, il l'a prouvé avec le fait qu'il a donné son Fils. Ici, Malachie, il y a l'idée aussi que l'amour est une base pour l'obéissance. C'est un peu le prérequis. Le Nouveau Testament, dans Jean 14, nous explique que si on aime Dieu, on va lui obéir. Et donc il y a une base posée ici par Dieu qui dit non, je vous aime. Alors ce que je vais vous demander, ce que je vous demande après, faites-le. Il y a une relation. Il établit un peu l'élément de base. Et c'est pareil pour nous, par exemple, dans une relation avec un enfant. souvent, si je dois discipliner ma fille, je vais lui dire aussi que je l'aime. Il y a ça, c'est sûr, ça c'est la base. Et ce que je te demande, ce que je te dis de faire, c'est pas. En tout cas, moi, en tant qu'être humain, j'essaie de pas être capricieux et de réagir de manière inconsciente. Dieu, lui, est parfait, et donc il nous assure de son amour. Et ensuite, ça permet de recevoir les choses qu'il nous dit derrière. Alors on continue au verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom, on présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui! Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je accepter de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. De quoi il parle ici? Dieu leur dit, vous m'honorez d'élèves, vous dites père, maître, etc. Mais votre comportement ne correspond pas à ce que vous m'appelez. Vous méprisez mon nom. Vous souillez vous me souillez en offrant des mauvaises offrandes. Le peuple amenait des offrandes de mauvaise qualité. Ils amenaient des choses dont ils ne voulaient pas. C'est un petit peu, Dieu demandait le meilleur d'eux. La loi, dans l'Ancien Testament, présenter des règles, présenter des choses sur ce qu'ils devraient offrir. Et ça devait être le meilleur de ce qu'ils avaient. Les premiers fruits, les meilleurs animaux, les bonnes choses qu'ils avaient, ils devaient les donner, les offrir à Dieu en sacrifice. Et eux, ils amenaient des choses ridicules, comme je le disais, dont ils ne voulaient de toute manière pas. Ils amenaient les bêtes dont ils pouvaient pas se servir à la ferme. Ils amenaient les choses qu'ils auraient jetées ou refusées. Et Dieu leur parle durement. Le peuple dit, ne comprend pas. Et il leur explique clairement. Il leur dit, vous offrez sur mon autel, verset 7, des aliments impurs. Au verset 8, il dit qu'ils offrent des bêtes aveugles. Il dit c'est mal. Ils offrent des bêtes boiteuses et malades. Et il leur pose une question un peu ironique. Il dit allez voir le gouverneur de votre pays et offrez-lui ça et voyez comment il va réagir. Vous invitez le maire à la maison et vous lui offrez du pain rassis avec un fromage sec et voyez s'il va être content. Il leur dit Vous m'appelez père et maître et vous m'offrez des choses que vous n'offririez pas à quelqu'un d'important. Ça m'a fait penser à ce passage, pour ceux qui connaissent, il y avait le président Valéry Giscard d'Estaing, il y avait une émission de télé qui s'appelait Dîner chez les Français, où il allait de temps en temps et il dînait chez des Français ordinaires et ils avaient le repas et ils discutaient, c'était filmé. Et ça m'a fait penser un peu comme si on invitait le président à manger chez soi et puis on On met des assiettes en papier, les fourchettes plastiques là qui se cassent dès qu'on veut faire un truc. On lui fait un steak bien dur avec un petit couteau avec lequel il peut rien couper. On en rigole, mais c'est ridicule. Et c'est la même chose ici pour le peuple. Il dit, offre-la donc à ton gouverneur. Est-ce qu'il te recevra bien? Te fera-t-il un bon accueil? Et il continue avec cette manière de parler presque ironique. Il dit, vous faites ça et après vous priez, vous demandez au prêtre de prier que Dieu ait pitié de nous. Il dit, vous offrez des mauvaises offrandes, vous voulez que les prêtres prient pour que tout se passe bien dans vos vies, et derrière, comment vous pensez que ça va se passer? Et les mots qu'il a ici sont très forts, au verset 10. Qui est-ce qui aura l'honnêteté intellectuelle de dire on arrête les frais, on ferme boutique, il vaut mieux ne rien offrir que de faire semblant comme ça, on va fermer le temple plutôt que de continuer avec cette mascarade. Il leur dit, c'est des mots tellement durs, je ne prends aucun plaisir en vous et je n'accepte pas les offrandes de votre main. Au verset 10. Et les versets 11 et un peu la suite, il dit, même dans d'autres pays, on m'honore correctement. Ici, on voit quelque chose qu'on peut comprendre comme une annonce prophétique de choses qui allaient venir, peut-être dans le temps de l'Église ou peut-être à la fin des temps. Parce que de l'époque, on peut pas dire que les nations autour, les Babyloniens ou les Perses ou les étaient forcément avaient une adoration pour Dieu qui était quelque chose que Dieu aimait. Mais il les reprend et il dit la table, vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Parlant ici aux prêtres avec cette idée qu'ils sont là à servir le Seigneur au temple et en même temps ils sont là à se plaindre, à dire c'est mauvais, ce qu'on offre est mauvais et en même temps moi en tant que prêtre ça me rapporte pas grand chose, j'ai pas vraiment ce dont que je voudrais avoir et au verset 13, quel ennui. Ça me casse les pieds là d'être au temple. Je préférais être ailleurs là. Je vois pas trop l'intérêt. Il dit mais vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Est-ce que je peux les accepter de vos mains? C'est une histoire qui remonte dans la Bible, qui est présente dans toute la Bible et qui un des passages auxquels on pense quand on lit ce genre de choses. En tout cas moi, c'est l'histoire de Cain et Abel dans la Genèse 4 avec Cain qui offre un mauvais sacrifice ou quelque chose dont il ne voulait pas, alors qu'Abel fait un sacrifice avec le meilleur de ce qu'il a et Dieu a plaisir en ce qu'il reçoit de la part d'Abel et pas de ce qu'il reçoit de la part de Cain. On peut le voir aussi dans le livre des Actes. Il y a une histoire dans Acte 5 avec Ananias et Saphira. Une histoire choquante aussi avec ces personnages qui viennent et qui disent on a vendu un champ et voilà tout l'argent et on le donne à l'église et c'est pour la gloire de Dieu. Et Pierre leur dit mais vous nous mentez. Vous avez gardé une partie du prix et vous faites semblant de nous offrir un bon cadeau. Et les deux tombent mort comme foudroyé et Dieu dans ici notamment il veut que le peuple et notamment les prêtres réfléchissent à ce qu'ils font. Il veut qu'ils réfléchissent bien à leur service vis-à-vis de Dieu. Il ne veut pas qu'ils tombent dans une certaine tradition ou routine stérile un peu ennuyante où il n'y a aucune joie, aucune vie. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans la Bible, cette idée de religiosité, de choses qu'on fait juste parce qu'on les fait, parce qu'il y a une sorte de tradition, parce qu'on c'est ce qu'il faut faire, c'est marqué dans la loi, alors on va faire, mais est-ce que c'est vraiment sérieux ou grave ou... Et on peut tomber, et pour nous, On peut regarder ça et je pense qu'il y a une bonne mise en garde ici avec l'idée que je pense que ça revient vraiment à une idée d'amour vis-à-vis de par rapport à la motivation ou de d'égoïsme et de peur et d'une sorte de contrôle qu'on a envie d'avoir par peur. Je vais expliquer ce que je suis en train de dire pour que ce soit plus clair. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on donne le minimum, est-ce qu'on donne juste le moins possible, juste la routine. Si on applique ça à nos vies, si on applique ça à une relation entre mari et femme, par exemple, ou parents avec leurs enfants, ou une relation d'amitié, peut-être, c'est quelque chose qu'on comprend vite. Si moi, par exemple, avec ma femme, je ne lui donne pas mon attention, je ne lui donne pas le temps dont elle a besoin, je ne suis pas généreux dans la manière dont je vais aider avec les tâches au quotidien, dont je vais me soucier de son bien-être, dont je vais essayer de faire attention quand elle me parle, quand elle a des besoins, quand elle est dans la difficulté, etc. Si je n'exprime pas l'idée que je suis heureux d'être avec elle, d'avoir du temps avec elle, où je suis là pour elle, la relation va finir par aller mal. Si je fais certaines choses, mais c'est juste parce que j'ai l'habitude de les faire et pas parce que je veux l'aider, parce que je cherche ou parce que je reste dans une relation avec elle, ça va finir par mal se passer. Et si je suis dans une ambiance de ouais, mais j'ai là aussi c'est presque marrant, mais c'est si je suis en train de faire le repas et je me dis ouais, mais j'ai pas beaucoup, j'ai deux petits steaks, moi ça m'irait bien pour moi et j'en ai pas d'autres de steaks, donc bon, Daphné, Django, Lindsay peuvent, je leur mets deux feuilles de salade et puis moi je vais manger les steaks. Vous voyez le manque d'amour, c'est flagrant. Et c'est ce que le peuple d'Israël était en train de faire, et c'est ce que nous pouvons faire parfois dans notre relation avec Dieu. C'est aussi Malachi, dans la fin, il y a un passage, et Pierre, je pense, va en parler, qui parle de la dîme. Et c'est un des passages principaux dans l'histoire de la Bible, dans toute la Bible, sur la dîme et sur comment on doit la donner, etc. Nous avons, en tant qu'êtres humains, un peu une vision du monde et des ressources qui est limitée. On dit, bon, j'ai 10 euros, c'est tout ce que j'ai. J'ai intérêt. Et si on tombe dans la peur et dans l'égoïsme, on se dit, c'est 10 euros, il faut que je les garde pour moi parce que j'en ai que 10 et je peux déjà pas faire grand chose avec mes 10 euros. Alors si Dieu me demande de donner de mes 10 euros et j'en ai besoin, non, je peux pas. Il faut qu'on reste là dans le contrôle. Et la Bible nous présente un Dieu qui dit, moi les euros, j'en ai autant, en veux-tu, en voilà, je les imprime si tu veux, c'est pas un problème. Donc mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel. C'est ce qui est dans plus loin dans Malachi. Il dit, moi, c'est pas un problème, vous pouvez donner autant que vous pouvez, je peux toujours pourvoir plus pour que vous ayez ce qu'il vous faut. Et La Bible est exigeante vis-à-vis de nous. La Bible nous présente un Dieu qui est exigeant, c'est pas facile ce qu'on voit dans la Bible. On lit ces choses et parfois, si on est honnête avec nous-mêmes, on se dit, si on est honnête, on dit, je peux pas. C'est un peu la réaction des disciples par rapport au pardon où Dieu leur dit il faut pardonner et ils disent ah mais qui peut être sauvé, alors c'est impossible. Et c'est bien ce que la Bible nous présente. Dieu est un Dieu qui d'une certaine manière nous présente quelque chose d'impossible à faire, quelque chose qui est trop difficile. C'est une citation que j'aime bien d'un auteur, G.K. Chesterton, qui dit que la foi chrétienne n'a pas été essayée puis trouvée défaillante. Il dit on l'a considérée trop difficile et on ne l'a même pas essayée. Quand on lit vraiment ce qui est demandé. Alors, j'y reviendrai après. Dieu nous aide et Dieu nous donne son esprit pour qu'on puisse arriver aux choses qu'il nous demande. Mais il y a quand même un appel à ce que nous obéissions. Et je pense pour nous, un appel à dire, est-ce que vous êtes tombé dans une léthargie, un truc, une passivité, vous venez à l'église, mais juste parce que bon, c'est la routine, parce que vous connaissez les gens, parce que c'est ce qu'on fait, parce qu'on est, chrétien, ou est-ce que vous venez avec une joie, est-ce que vous venez avec l'envie de donner plus, de servir, d'offrir ce que vous avez au Seigneur, de vraiment lui donner le meilleur, le temps que vous avez, peut-être, j'en sais rien. Alors, il y a une exigence, ça veut pas dire, faut pas tomber dans une incompréhension qu'on doit laisser tomber notre travail, qu'on doit être tous missionnaires et qu'on doit. Tout ça, c'est toujours une question de caractère par rapport à là où nous sommes. Dieu nous appelle à l'aimer d'une manière extravagante. Il n'y a pas de règles, on veut pas tomber dans un truc de loi où il faut donner un tel et tel, il faut qu'on ait des feuilles avec combien de temps on a passé à l'église et puis on va donner des bonbons à celui qui a passé le plus de temps à l'église ou etc. Mais chacun d'entre vous savez quand vous donnez quelque chose à Dieu avec joie, parce que peut-être c'est quelque chose qui vous coûte, mais ça doit être quelque chose que vous faites de bon cœur. Et on prie que Dieu nous donne de son esprit pour que nos vies soient transformées et que nous ayons cette envie naturellement de donner à Dieu, de donner de notre essentiel pour le Seigneur. Et peut-être ici aussi une nuance, Dieu n'est pas dupe. Nous ne le trompons pas. On peut se tromper les uns les autres, on peut faire semblant et faire croire qu'on est incroyable, mais il connaît chacun d'entre nous nos cœurs et l'important dans notre service de Dieu, l'important dans dans ce que nous faisons pour Dieu, c'est entre nous et Dieu. Est-ce que déjà je lui obéis, est-ce que je lui donne, est-ce que ce que j'ai, ma vie, mon temps, mes ressources, est-ce que c'est disponible pour le Seigneur pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut? Et après, ça peut prendre plein de formes différentes. Dans Matthieu 6, 33, il dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Parfois, l'Église peut se retrouver endormie, léthargique, un peu le contraire de ce qu'elle doit être, voire tout le contraire de ce qu'elle doit être, comme le peuple d'Israël ici. Et parfois, il y a peut-être des églises où il vaudrait mieux fermer la porte. Alors, on prie que ce ne soit pas le cas, mais prions que nous ayons une conscience des choses où nous, en tant qu'église ici, nous ayons besoin de changer. Prions pour que Dieu nous réveille chacun individuellement. Prions Dieu, nous voulons que tu prennes plaisir en nous, que ce que nous faisons ici soit quelque chose qui te fasse plaisir. Regardons ensuite, pour finir, le début du chapitre 2. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Me voici, je menace votre descendance et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je les lui ai donnés pour qu'ils me craignent. et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche et on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous êtes écartés de cette voie, vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. Ici, c'est la suite de la réflexion précédente, à savoir que le peuple amène de mauvaises choses à offrir à Dieu. Et quand il l'amène au temple, les prêtres deviennent complices en disant « c'est bon, on prend les mauvais trucs, ils sont pas dupes ». Les prêtres, ils voient que c'est des animaux boiteux, malades, etc. Ils connaissaient la loi qui disait « vous n'amènerez pas ce genre d'animal pour me le donner en tant que sacrifice ». Et ces prêtres disent « ah c'est bon, on va les prendre, on s'en occupe ». Dieu, on voit dans les passages précédents, ils sont là, c'est une table dérisoire, c'est pas grave, c'est un peu bon. Et Dieu leur dit, faites attention, vous acceptez, vous validez ce que fait le peuple, ce qui n'est pas bon. Vous qui devriez être ceux qui les reprennent et qui les corrigent. On voit les caractéristiques ici. Qu'il attendait de la part de ses prêtres. La loi de vérité était dans sa bouche. Il parle ici de Lévi, mais c'est ce qu'il attendait de ses prêtres. Il devait avoir pour Dieu de la crainte, trembler devant mon nom. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres, verset 6. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. Les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel. Il les reprend, il les met en garde, il dit c'est le rôle que vous devez avoir, que vous deviez avoir et vous ne le faites pas. Et il a ces mots très durs où il dit normalement quand il y avait les sacrifices, il fallait vider un peu le système digestif des animaux et le brûler en dehors parce que c'était pas quelque chose qui était à sacrifier. Et là il dit vous allez en avoir, je vais vous le mettre sur vous quoi, vous allez en manger en quelque sorte. C'est des mots vraiment très très durs. Et ici, pour l'appliquer peut-être à nous, c'est attention aux responsables des églises. Ça fait trembler quand on doit préparer une étude sur un passage comme ça et qu'on est la personne qui enseigne. Dans Jacques, il est dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir les enseignants parce que vous allez être jugés plus sévèrement. Et là aussi, vous pouvez prier pour moi quand j'enseigne ou pour Pierre ou pour d'autres. Pour ceux qui aident avec la direction de notre église, pour les pasteurs et les dirigeants d'autres églises, qu'ils restent fidèles à ce que Dieu leur demande. Encore une fois, c'est des choses difficiles et c'est des choses d'une certaine manière impossibles. Mais Dieu est bon et c'est par sa grâce, c'est par lui que nous pouvons arriver à faire ce qu'il veut et devenir ce qu'il veut. Une petite note pour finir là-dessus, c'est la Bible nous annonce et on voit dans le Nouveau Testament qu'il y aura des personnes qui seront des dirigeants d'église, qui seront des prétendus prophètes, de prétendus enseignants. Dans 2 Pierre 2:1, il est dit qu'ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. C'est une réalité et c'est quelque chose où nous, en tant que chrétiens, nous avons d'une certaine manière une part de responsabilité. Ceux qui sont les mauvais enseignants ou les personnes qui sont responsables et qui ne sont pas fidèles à Dieu seront jugés, mais les gens dans les églises qui vont suivre ces personnes vont avoir leur part de responsabilité aussi et nous devons faire attention. Aujourd'hui, je dirais encore plus avec Internet, parce que nous pouvons aller sur des sites et écouter des enseignements de personnes dont on ne sait rien. dont on ne sait pas qui sont les personnes. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne se serve pas de ces ressources, mais c'est pour dire faites attention, et ce que vous entendez sur Internet, ce que vous voyez sur Facebook, ce que vous voyez dans les articles, ce que vous voyez dans les vidéos d'enseignement, priez pour que Dieu vous donne du discernement et allez regarder vous-même dans la Bible si ce qui est dit correspond à ce que la Bible nous dit. Ce que je vous annonce le dimanche matin, ce que Pierre vous annonce, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous dites « je ne comprends pas » ou « je crois qu'il s'est trompé », ça m'arrive de dire des bêtises, j'essaie de ne pas avoir la mauvaise intention et de le faire exprès, ce que certaines peuvent avoir, malheureusement, mais nous avons une responsabilité. Alors, je vous en prie, sentez-vous libre de venir me parler si vous avez des points de remontrance. Priez pour que nous restions là où il faut et ayez du discernement pour ce qu'il y a au dehors et ce à quoi vous êtes confrontés. On va un peu terminer là-dessus. Cette idée que ce que Dieu nous demande est impossible, c'est... nous avons besoin de l'aide de Dieu. On voit que ces Israélites, ils étaient partis en exil. Dieu les avait punis, leur avait fait subir des choses tellement difficiles. Ils avaient l'Ancien Testament, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Et on voit qu'ils reviennent et qu'ils retombent dans les mêmes problèmes, dans les mêmes péchés. On voit que notre nature humaine est tellement mauvaise. On voit dans le Nouveau Testament, on voit les apôtres, on voit Paul qui implante des églises et quelques mois après, c'est la pagaille. On peut voir ces choses et être découragé. Mais Dieu fait une promesse au peuple d'Israël, comme il le fait à nous, c'est que Dieu, il va changer nos cœurs, il va changer notre nature même. Il nous change. Il nous rend de plus en plus comme lui, il nous sanctifie et nous en avons besoin. Et pour terminer, de lire dans Romains 8, à partir du verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché de son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Et on pourrait continuer et continuer. Au verset 31, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre la relation avec Dieu que Dieu veut que nous vivions, pour comprendre qu'il nous a aimés, pour l'aimer en retour, pour vivre des vies où ce qui est à nous est un sacrifice qui lui est agréable, et pour qu'il y ait une vie vraiment dans notre relation avec lui. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par notre nature propre, mais c'est grâce à Dieu et grâce à son Esprit qui agit en nous. Prions. Jésus, merci pour ce matin, merci pour Malachie, merci pour ce livre qui a tant de choses à nous dire. Seigneur, nous voulons te faire plaisir. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as aimés, parce que tu nous aimes. Aide-nous à le comprendre et à le croire tous les jours. Et Dieu, quand nous t'appelons Seigneur, quand nous t'appelons Maître, aide-nous à le vivre vraiment. Aide-nous à grandir dans notre amour pour toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour pouvoir faire ces choses. Merci pour ton plan pour nous, pour le fait que tu as prévu tous les moyens, toutes les choses dont nous avons besoin, Seigneur. Sois content, sois heureux de ce que tu trouves ici, dans notre Église. Parle à chacun d'entre nous, fais-nous grandir, sanctifie-nous, Seigneur, en tant qu'individu et en tant qu'Église. Nous avons besoin de toi, nous voulons que tu dises « Gardez les portes ouvertes, je prends plaisir en vous ». Nous ne voulons pas que cet endroit soit un endroit où tu dises « Qui fermera les portes pour moi, Seigneur ?» Quelle chose incroyable, quelle chose horrible, Seigneur. Alors par ta grâce, continue de travailler dans nos vies, continue de travailler en nous et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants parce que tu es tellement bon envers nous. Aucun d'entre nous ne méritait d'être aimé ou choisi par toi, mais tu l'as fait, Seigneur. Quel mystère, quelle chose incroyable. Tu nous aimes. Merci pour ce temps ensemble, merci pour la famille que nous sommes en toi. En ton nom, nous prions. Amen.